Yes, merci beaucoup pour ce temps de louange, merci pour ce chant rempli de joie, ce dernier chant, pas le seul, mais celui-ci en particulier. Je me voyais dans le ciel en train de rentrer avec un nombre incalculable de personnes que certains je connais, d'autres pas. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un que moi je connais pas, et là on rentre et yes, c'est fini, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de factures à payer, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus rien, c'est la joie du ciel, là, yes! Et je crois que nous ne réalisons pas assez souvent la joie qui nous attend. Je crois que nous sommes tellement, et avec raison aussi, c'est légitime, c'est normal, c'est compréhensible. Nous sommes tellement effondrés sous les fardeaux du quotidien qu'on perd de vue l'espérance que nous avons. Et je suis vraiment réjoui de ce chant. Ça me permet vraiment de pouvoir aussi introduire ce message. Intitulé, d'ailleurs, un pas à la fois, je prie que chacun d'entre nous ici dans ce lieu ou qui écoutait ce message via les réseaux, un pas à la fois, on traverse le grand voyage, notre pèlerinage terrestre pour se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée dans les lieux parfaits que le Seigneur a préparés pour nous. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Je salue aussi tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet et sur les réseaux. Je suis content parce qu'il y a quelques personnes qui sont venues me voir pour dire « Hey, tu sais pas, tu me connais pas, mais ou peut-être tu sais pas, mais je vais te dire. Parfois, il m'arrive d'écouter les messages et voilà. Et je pense à des personnes, entre autres, comme Gilbert, Ephraim, Fanny, et il y en aurait tant d'autres. Je vous salue et toute l'Église du CEP vous salue. Est-ce qu'on peut saluer tous ceux et toutes celles, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté? Yes! Parce que l'Église ne se résume pas au dimanche matin et à l'intérieur de ces murs-ci. L'Église, c'est tellement et beaucoup plus que ça. Tellement et beaucoup plus que ça. Le titre du message, un air de célibataire. Durant cette première partie de l'année, durant les derniers 6 mois, nous avons eu l'occasion d'entendre des messages sur la famille, des messages sur les hommes, on pense à la fête des pères, sur les femmes, à la fête des mères, et les femmes, on sait qu'on en a eu des messages sur les femmes. On a eu l'occasion d'entendre des messages, ou peut-être pas un message en soi, mais on a souligné à quelques reprises dans les derniers 6 mois aussi la valeur de nos aînés, comment est-ce qu'on peut être reconnaissant pour le bienfait qu'ils nous ont apporté, nous apportent encore, d'avoir semé, nous bénéficions de ce qu'ils ont, de leur travail. Et je me suis dit, il serait temps de penser à nos précieux amis célibataires et qu'ils soient à l'honneur aujourd'hui, encore dans cette première partie de l'année, d'où le titre « Un air de célibataire ». Mais j'aimerais aborder ce sujet en m'éloignant le plus possible des clichés et des approches classiques à propos des célibataires, le plus possible. Alors c'est dans cet état d'esprit que j'aimerais dire en fait tout simplement que ce message-ci n'est pas un encouragement dédié aux célibataires. C'est pas pour vous. Je pense que ça va vous encourager aussi. Mais ce message-ci est beaucoup plus un appel à nous laisser inspirer par 5 leçons de vie que le célibat offre à une société entière. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter, en fait, à adopter un air de célibataire. Ça sonne compagnie d'aviation, hein? Air célibataire. Là, on est dans les vacances, fait que je suis un peu dans... Je reviens d'une petite semaine de vacances, ça fait du bien. Et il y en a d'autres qui sont en visite parmi nous, soyez les bienvenus aussi. D'autres qui ont hâte de partir aussi. Air célibataire. C'est quoi avoir un air célibataire? Et pour certains d'entre nous, il y a comme 2 extrêmes de pensée. Quand je dis certains d'entre nous, c'est autant célibataire ou non. Il y a un peu cette idée, ah ben, je prends la compagnie air célibataire et c'est un peu le vol de toutes les libertés. Le vol de tous les possibles, tout est possible. OK, super, je suis célibataire, j'ai pas de compte à rendre à personne, tout l'avenir est devant moi, je peux faire ce que je veux, j'ai pas besoin de demander ou de rendre des comptes sur mes dépenses, sur mon heure de rentrée. Yes, freedom, air célibataire. Et il y en a d'autres, c'est l'autre extrême. Air célibataire, pour certains, ça sonne air chute libre, air crash total. J'ai pas d'avenir, j'ai pas de famille à fonder, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et il y a 2 extrêmes qui peuvent être vécus de façon et d'autre, mais j'aimerais ici voir pour nous qu'est-ce que ça veut dire avoir un air de célibataire spirituellement et bibliquement parlant. Puis je pense que c'est important, les célibataires, je crois que c'est important de ne pas oublier qu'il y a autour de nous des célibataires. Parce que, soit dit en passant, c'est 40% des Français, à l'heure actuelle, sont célibataires. C'est pas rien. Les sociologues parlent même d'un phénomène grandissant provenant, pour certains, je généralise évidemment, mais pour certains, ça provient d'une volonté affranchie et assumée à l'encontre de l'engagement. Il y a quelques années en arrière, lorsque quelqu'un se mariait, quand on parle de divorce, en règle générale, en moyenne, pouvait arriver 10-15 ans après. En règle générale, maintenant, la moyenne, c'est 5 ans après. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles des personnes sont célibataires, mille et une raisons, et ce n'est pas le sujet de ce matin. Simplement, ce que nous puissions retenir quand même, que ce n'est pas rien, 40% des Français sont célibataires. Je l'ai dit, ce message n'a pas pour but de réconforter ou de donner des conseils aux célibataires. J'espère que ça va aussi vous encourager, si vous l'êtes, mais au même titre que n'importe qui, n'importe quelle personne, peu importe son statut. Et trop souvent, les célibataires sont perçus. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais dit, et tout le monde était parti à rire parce qu'ils avaient été surpris, j'ai dit, le célibat n'est pas une maladie. Et trop souvent, on voit, célibataire ou non, peu importe, il y a cette perception parfois où le célibat est vu comme une maladie ou même comme une malédiction. Parce que, à quelque part, même bibliquement, on se rappelle que dans la Genèse, la Bible dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, si je suis seul, ben, ce n'est pas bon. Est-ce que je suis maudit? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Et en fait, j'aimerais aller à l'encontre de cette pensée-là, parce que j'aimerais dire simplement que non seulement le célibat n'est pas une malédiction, mais je crois beaucoup plus qu'il est un antidote. Il est un antidote contre notre tendance à l'apathie spirituelle. Il est un antidote contre notre tendance à l'apathie spirituelle. Et vous allez comprendre. Vous pouvez ouvrir dans vos Bibles ou suivre avec moi en même temps. On peut suivre ensemble sur l'écran, les textes bibliques qui vont concerner notre message ce matin. 1 Corinthiens chapitre 7, c'est le chapitre où on parle des relations mari, femme, marié avec quelqu'un qui partage notre foi chrétienne ou non, célibataire, jeune fille, veuve, tout ce qui est couple, relation. Fréquentation se trouve dans 1 Corinthiens 7. On ne va pas le lire au complet, mais la première partie, on va commencer. C'est Paul qui parle, dans la version du Semeur. « Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. » Avant d'aller plus loin, ça c'est les chiffres en parenthèse, en blanc, ce n'est pas des versets, ça c'est les 5 points, les 5 leçons que nous allons retirer de ce message-ci. C'est vraiment sur ce cœur-là que nous allons nous arrêter et vraiment qu'on puisse comprendre que tout ce qui va suivre est imbriqué dans les parties inscrites en jaune. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous n'avez pas le visuel. La partie en jaune en haut, c'est « le temps est limité » et en bas, « car le présent ordre des choses va vers sa fin ». Tout ce que nous allons dire dans les prochaines minutes est imbriqué dans ce contexte. Le temps est limité. Le présent ordre des choses va vers sa fin. On entend parler partout d'écologie, de ceci, et je n'ai jamais été un fanatique de l'écologie, malgré que je considère que c'est important de prendre soin de notre planète. Et depuis quelque temps, je me suis vraiment penché sur la question, et nous sommes vraiment en situation de crise. Ce n'est pas le sujet de ce message, mais nous sommes vraiment en situation de crise. Ce n'est pas, un discours alarmiste. D'ici 5 ans, la planète va être littéralement en ce qu'ils appellent en stress hydrique au niveau des ressources d'eau. On pense juste à l'année passée, la déforestation de l'Amazonie pour la culture agroalimentaire, la superficie correspond, juste l'année passée, la superficie correspond à la superficie de la France. Ce n'est pas le jardin que tu as derrière dans ta cour ou la superficie du Netto ou du Carrefour dans lequel tu vas. On parle de la France. C'est vraiment dramatique. C'est vraiment alarmant. Il y a de quoi s'alarmer. Maintenant, comme en tant que chrétien, ce n'est pas le sujet, un jour on aura peut-être l'occasion d'aborder sur comment se positionner par rapport à ça, mais je crois que j'essaie le plus possible d'éviter les positions extrêmes. Mais on ne devrait pas être surpris Et on ne sait pas comment, on ne sait pas comment est-ce que les choses arrivent à leur fin, de quelle manière, mais la Bible nous dit clairement que le présent ordre des choses va vers sa fin. Et là, on est à plusieurs milliers d'années, centaines d'années en arrière, à l'époque de l'apôtre Paul. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la situation est pas mal pire qu'au moment où il écrivait ces lignes-là? Et c'est dans ce contexte-là qu'il va mentionner tous les cinq choses que nous allons regarder ensemble. On va lire quelques versets pour qu'on puisse saisir la suite et on va rentrer dans le sujet. Verset 32. « C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci, c'est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. » Verset 35. « Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège ou pour vous mettre une contrainte, certaines versions diront, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. » Wow! Quel programme de vie! Vous n'êtes pas d'accord? C'est quelque chose. Là, il y en a qui se disent, il me semble qu'on était en vacances, il est revenu de vacances, on va peut-être avoir un message sur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis honnêtement, ce n'est pas le message que je voulais prêcher. Seigneur, j'aimerais un message cool pour les vacances. C'est juste relax. Juste se reposer dans tes bras. Et puis ce texte-là martelait mes pensées tout au long. Alors c'est sûr qu'il y a un portrait, c'est l'idéal biblique. Celui qui n'est pas marié, il écrit. Il n'y a qu'une seule chose à faire, il n'y a qu'une seule préoccupation, c'est le Seigneur. C'est l'idéal biblique. Alors on est conscient que tout le monde n'est pas... Là, quand je parle de tout le monde, cette fois-ci, je fais allusion aux célibataires. Tous les célibataires ne sont pas dans cette dynamique d'esprit où leur seule préoccupation, c'est de plaire au Seigneur. Il est simplement en train de dire qu'il y a des réalités de vie qui font que c'est plus facile de se concentrer sur les choses de Dieu. Si la Genèse nous dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », là on ne l'a pas lu ce matin, mais le verset 26, quelques versets précédents, l'apôtre Paul va littéralement dire « ce que je demande en fait, c'est que peu importe votre état actuel, de demeurer dans l'état actuel que vous êtes. » Je ne suis pas en train de dire de quitter votre épouse, votre mari, mais il va dire, et je ne vous oblige pas à être comme moi, mais j'aimerais simplement dire c'est une bonne chose. Si vous arrivez à rester, il va dire comme ça, il écrit clairement, si vous arrivez à rester comme moi, c'est-à-dire seul, c'est une bonne chose. Puis plus loin, il va même dire, parce que c'est, je vous le dis les amis, être marié, c'est une source de souffrance. C'est des tourments, ça ne sera pas facile, vous allez tirailler. Et là, ça console tous les célibataires, là, il y en a plusieurs qui disent, ah ouais. Quelqu'un m'a dit, il y a quelques années en arrière, il dit, en fait, le mariage et le célibat, c'est comme une moustiquaire. Ceux qui sont dedans veulent rentrer, ceux qui sont dehors veulent sortir. C'est toujours plus vert dans... l'herbe est toujours plus verte dans la cour du voisin, d'à côté. Vous avez compris le principe. Quelques précisions. L'apôtre Paul ne nous... Alors, pour certains, c'est très facile. Faites comme si vous n'étiez pas marié. Alors, il y en a, ils n'ont aucune misère pour ça. Hein. En tant que pasteur, je peux vous le dire. Je ne parle pas d'ici en tant que tel, je parle en général à travers mes années. Je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, certains maris, certaines épouses qui se comportent... en solo à la maison, c'est colocataire, et puis on vit comme si... Alors ça, mais c'est pas de ça que l'apôtre Paul parle ici, juste rétablir les choses. Parce que là, les gens... Ouais, mais alors, non, mais Phil, il a dit qu'il faut faire comme si on n'était pas marié, fait que la vaisselle, occupe-toi-en, les enfants, occupe-toi-en, le ménage, occupe-toi-en, et puis les tâches administratives, occupe-toi-en, et puis, pose-moi pas de questions si je rentre trop tard. Non, il faut... Moi, je mets la Bible en pratique, je fais comme si... Non, c'est pas de ça qu'on parle. OK. Ce n'est pas un encouragement à quitter notre conjoint. Il ne nous encourage pas à devenir célibataire. Paul ne nous encourage pas à devenir célibataire. Il nous encourage à nous considérer comme si nous l'étions. Ah. Et c'est là que je dis que le célibat a des leçons, certaines réalités du célibat, comme décrit ici, dans l'idéal biblique, a des leçons à nous donner. Cette portion de texte, qui met justement une grosse emphase sur le célibat, tout n'est pas relié au célibataire, mais c'est quand même, on l'a dit, on le voit, on parle de cette réalité de statut-là, avec ou sans conjoint, des cinq leçons suivantes que j'aimerais relever. La leçon de prochaine diapo, de priorité. Prochaine diapo. Leçon de priorité, on va regarder, leçon de relativité, Non, voilà, yes. Merci Clément. C'est jamais facile d'être en arrière. Quand ça va bien, il n'y a personne qui te remarque, mais quand ça va mal, tout le monde connaît ton nom. Puis ceux qui ne le connaissent pas, ils l'apprennent. C'est un super boulot. Leçon de priorité, leçon de relativité dans ce texte-là, il y a une leçon de lucidité, il y a une leçon d'identité, il y a une leçon de fiabilité. On avance. Comme si... OK, c'est assez intéressant quand même, parce que, bon... Et remarquez avant d'aller plus loin, que dans tous ces aspects-là, il n'y a aucune notion de péché. On va passer à travers ces 5 points, il n'y a rien qui est mal là-dedans, rien du tout. C'est des choses légitimes, normales, justifiables, enviables, elles sont bonnes. Mais, leçon de fiabilité, bref, et là ce qu'on va faire, on va commencer par la fin. On va commencer, donc on est dans le bloc du verset 29 à 31, on va remonter du verset 31 au verset 29, on va faire l'inverse, on fait les choses à l'envers. Ça va, vous n'êtes pas trop déboussolés? Il y a un but pour ça, vous allez voir. Alors, il finit ce bloc-là en disant, bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. Que ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Autrement dit, hier, tu as eu un... ou avant-hier, ou la semaine passée, ou cet après-midi, tu vas avoir un super bon repas. Fais comme si tu n'en jouissais pas. Les biens de ce monde. Tu as une augmentation, fais comme si tu n'en jouissais pas. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Les loisirs, fais comme si tu n'en jouissais pas. Il y a comme un paradoxe dans cette phrase qu'on retrouve à 5 reprises. Autrement dit, vous l'avez déjà, c'est la leçon que je retire, on pourra en mettre tellement d'autres, ne place pas tes valeurs profondes dans ce qui n'a pas de durabilité. Ne place pas tes valeurs profondes dans ce qui n'a pas de durabilité. Nous sommes en vacances, fais comme si tu n'étais pas en vacances. Non. En fait, on a besoin de saisir que si notre style de vie se résume à profiter des biens instantanés, présents, sans y envisager le long terme, on a un problème. Si nos valeurs, notre raison de vivre se limite et se résume à profiter de l'instant présent, des biens de ce monde immédiat, sans considérer l'avenir à long terme, et je vais aller plus loin, la fin du terme, là je parle de la fin du terme de notre vie, le contrat de vie sur notre vie, fini, Philippe ne respire plus. Si on vit notre vie comme ça, on va avoir des très mauvaises surprises. On est en train de mettre nos valeurs profondes dans quelque chose. Les biens de ce monde ne sont pas mal en soi, en tout cas pas toutes. Mais si on vit notre vie en investissant, c'est juste ça. Ça va comme, c'est comme du sable sur la plage d'entre tes mains qui pff, et un jour tu vas te réveiller, je vais me réveiller, ça va faire mal. Parce qu'on aura tout mis là-dessus. Je peux imaginer qu'un célibataire va plus facilement faire l'expérience de ce genre de futilité, de ces biens de ce monde. Parce qu'un célibataire, après avoir terminé une bonne soirée, un bon repas, une bonne soirée au cinéma, un bon programme, peu importe, va rentrer chez lui, va se retrouver seul face à lui-même. Et je pense qu'un célibataire est plus à même de réaliser régulièrement ce genre de futilité, que ces biens-là sont là, mais en bout de ligne, je rentre chez moi, je ferme la porte. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'amis, pas qui sont, comprenez? Et là, il est face à lui-même, il ou elle, face à lui-même. Face éventuellement à ses croyances, ou s'il est croyant à son Dieu, à son Jésus. Ça peut attirer notre sensibilité pour nous de prendre conscience qu'il y a des gens autour de nous qui, nous, quand on a quitté, ben, on a quitté, on retrouve, on a un foyer, on a une vie. Des fois, on peut avoir des mini-conflits, mais il y a des personnes qui se retrouvent, qui sont seules. Ça, c'est leur vie. Puis c'est pas facile à gérer. Le silence va venir effacer, étouffer toutes les jouissances momentanées, qu'elles soient d'ordre matériel ou relationnel. Nous, pour ceux qui sont mariés, bon, on arrive, mais il y a une vie qui continue. C'est plus la fête, mais la vie continue. J'ai encore quelqu'un à parler, j'ai encore quelqu'un à gronder, j'ai encore quelqu'un. Il y a une vie, il y a une interaction. Et cette vie fait en sorte que j'oublie en fait que les biens de ce monde, à un moment donné, ça va se finir. J'oublie parce que je suis dans le. Je m'arrête pas. Aussi facilement que quelqu'un qui se retrouve seul face à lui-même. Est-ce que vous saisissez? Et c'est important de, si nous jouissons des biens de ce monde, de faire comme si il y a autre chose, en fait. Dans ce comme si, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est en train de dire, en fait, c'est assez fort, parce qu'il dit, ouais, faites comme si. OK, alors là, on pourrait dire, la Bible nous encourage à être les plus grands acteurs de la planète. On fait comme si. Bande d'hypocrites que nous sommes, si ça serait le cas. Non, c'est pas ça. Je crois que, justement, je crois que dans ce texte-là, d'une certaine façon, le Seigneur est en train de dire, à travers tous ces cinq points, en fait, vous faites comme si votre vie se limitait à 80, 90 ans, 100 ans, mais j'aimerais vous dire, j'aimerais vous inviter à faire comme si ce que je vous ai dit est vrai. Et parfois, c'est en faisant comme si qu'on devient comme ça. En faisant comme si c'était vrai, toutes les choses que la Bible m'enseigne à propos du royaume de Dieu, de l'avenir, eh bien, je deviens comme ça, c'est-à-dire un disciple. Parce que je me comporte, je vis en cohérence avec ce que la Bible me dit. Alors, ce n'est pas un encouragement à faire semblant, c'est plutôt à l'inverse de dire, je pense, moi, c'est comme ça que je le saisis. J'ai l'impression que les hommes, c'est comme si cet texte de Dieu disait, j'ai l'impression que les hommes vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux sur cette terre, mais comme si ça se limitait là, mais ce n'est tellement pas ça. Il y a deuxièmement une leçon d'identité. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Leçon résumée, ou principe résumé, ne laisse pas tes avoirs définir ton être. Ne laisse pas tes avoirs définir ton être. Je le dis autrement, on pourrait le dire autrement, que tes possessions matérielles ne te possèdent pas. Et ça, c'est tellement subtil. Pourquoi je parle d'identité? Parce que on se valorise beaucoup, quel que soit l'individu, hein, beaucoup à travers les biens matériels, les biens matériaux. J'achète, je possède, j'achète une voiture, j'achète un terrain, j'achète une maison, j'achète un ordinateur. D'ailleurs, beaucoup de personnes vont combler leur vide en achetant. C'est connu. Et on achète, et lorsque j'ai acheté, voilà, j'ai acheté ce iPad, il dit bien que ceux qui achètent, comportez-vous comme s'ils ne possédaient pas. Mais alors, ouais, je le possède, cet iPad. C'est à moi. I'm the king. Je suis le maître. Je suis en contrôle de ma vie. C'est à moi. C'est à moi. Cette maison, c'est à moi. Cette voiture, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Et là, on se comporte comme si on les possédait. C'est à moi. C'est subtil, mais c'est tellement fort. Et ça va tellement loin qu'on va parfois... J'aimerais simplement dire que notre identité est indépendante à nos acquis. Notre identité est indépendante à nos acquis. Et beaucoup, et parfois nous, souvent, à des moments ou à un autre, on va évaluer notre identité à la mesure de nos acquis. Genre, si j'ai une voiture qui est pourrie, ben, l'estime de soi dans une société de performance dans laquelle on est, c'est, ouais, ça va affecter mon estime de soi, mon identité. Si j'avais une bonne voiture, ah, là, oh, là, le regard des autres change. Ah, puis si j'en ai deux, oh! Et notre identité se construit à travers nos avoirs. Comprenons bien ceci. Le problème n'est pas dans les avoirs. Il ne dit pas, vends tout ce que tu as. Là. Il y a un autre texte, ça c'est un autre contexte. C'est pas, il ne dit pas ça. Il dit, non, dit, si tu possèdes, fais comme si. C'est correct. Et moi, je suis reconnaissant, en passant, parce que je suis reconnaissant pour une église comme celle du CEP, où il y a dernièrement, pour moi, un reflet d'une église, d'un groupe d'individus qui ont, chacun à sa mesure, mais qui se sont comportés comme s'il n'y avait pas. Et je pense à l'offrande missionnaire qui a été faite au Burkina Faso, à environ, je pense, 10 000 à peu près. Je vais dire 10 000 $, c'est un flashback du Québec. 10 000 euros. Et je crois que ça plaît au cœur de Dieu. Il dit, vous avez, c'est super, faites comme si, parce qu'il y a autre chose, il y a plus que. Et moi, je crois que le Seigneur, quand il voit ça, il se réjouit, il dit, oui, c'est ça que je veux dire par, lorsque vous possédez quelque chose, faites comme si vous ne le possédez pas. Alors ça, c'est une des façons. Mais que notre identité ne soit pas construite derrière nos avoirs. C'est tellement facile à dire, mais c'est autre chose à vivre dans la vie de tous les jours, surtout celle dans laquelle nous sommes. Tu n'es pas ta belle maison, tu n'es pas ta belle voiture, tu n'es pas ton super ordinateur, Tu es qui tu es, avec ou sans ça. La preuve, c'est qu'on peut... Il y a des... Je parlais dernièrement avec Madame la maire, l'adjointe au maire, cette semaine, pour différents projets. Elle me parlait de différentes situations dans notre région, ici, Pays de Gex. Et elle me disait, mais on dirait pas, mais derrière les belles apparences, derrière ces beaux portails, il y a des situations de vie. Elle m'en décrivait quelques-unes. Et derrière une belle maison, pour prendre l'image d'un foyer, eh bien, il y a des personnes, autant de personnes qui sont insensées qu'ingénieuse. Il y a autant de personnes qui sont sales dans leur comportement que sages dans leur agissement. Il y a de tout. Et ça ne dépend pas du fait qu'ils aient une maison ou non, qu'ils soient à la rue ou non. Ton identité n'est pas attachée à tes avoirs, n'est pas attachée à nos avoirs. Troisièmement, il y a une leçon de lucidité. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Encore une contradiction. Rappelez-vous, tout ce que nous voyons présentement s'imbrique dans le contexte du « les temps sont limités et l'ordre des choses actuelles arrive à sa fin ». Et j'appelle l'Église à avoir un comportement qui est en cohérence avec ce qui nous attend. C'est tout dans ce contexte-là. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Que les sources de nos joies n'éteigne pas l'urgence de voir une seule personne sauvée. Il n'est pas en train de dire « réjouis-toi pas ». Il dit « non, fais comme si ». Puis rappelle-toi que tu es juste de passage. Puis pour une seule personne qui est sauvée, qui rencontre Jésus, le message de Christ, qui a pardonné nos péchés, qui efface nos péchés, qui nous purifie, qui nous rend comme irréprochables aux yeux de Dieu, lorsqu'une personne, une seule, accepte de croire que c'est vrai, non seulement sa vie commence à être transformée, mais il y a une multitude d'anges qui font « comme ce matin, j'ai envie de danser. Yes, sir, une personne sur les milliards d'êtres humains, une personne. » Alors, lorsque nous avons des moments de joie, super, moi je me réjouis. Pour chaque moment de joie, je me réjouis. Je suis dans la joie pour la semaine de vacances que j'ai passée. Je suis la joie pour chaque événement. Mais avec cette humilité de dire « je ne sais pas de quoi sera fait demain. » Et puis « Seigneur, c'est super, merci. Mais je ne veux surtout pas que cette joie-là vienne éteindre l'urgence, j'allais dire, de permettre aux anges de se réjouir, de faire en sorte que d'autres personnes connaissent la joie du salut. Deuxièmement, il y a une leçon de relativité. Là, c'est l'inverse. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. T'as pas mal. T'es chrétien. Dieu est là, t'as pas le droit de souffrir, t'as pas le droit de te plaindre. Faites comme ça. Non, c'est pas ça qu'il dit encore une fois. J'aimerais dire, sans vivre dans le déni des réalités. David s'est lamenté, il a pleuré, il a, comme diraient les ados aujourd'hui, il a pleuré sa vie. Là. Il a pleuré sa vie. Dieu n'est pas contre les émotions, il n'est pas contre le fait qu'on souffre, ou qu'on montre notre souffrance plutôt. Mais il réalise que les souffrances présentes, et ce texte, cette citation est littéralement un copier-coller de Romains chapitre 8, 18, une référence qui vaut la peine d'être mémorisée, réalise que les souffrances présentes n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Wow! Que ceux qui pleurent se comportent comme s'ils ne pleuraient pas. Et là, je m'adresse à tous les célibataires où tu rentres chez toi puis tu pleures. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est facile, que c'est pas grave. Dieu est là. Oh, le Seigneur, elle est là. Accroche-toi à lui, c'est pas grave, ça va aller. Pourquoi tu te plains? En plus, regarde, tu es une source d'inspiration pour la société au complet puis l'Église. Non, stop, relève la tête. Non, tu as le droit de pleurer. J'aimerais te dire que les souffrances présentes que tu vis n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui t'attend. Et ça, c'est applicable à chaque statut. Tu es une personne âgée ce matin, tu souffres dans ton corps, tu as de l'arthrite, tu as mal, ça te prend tout juste pour laver ton assiette. Les souffrances présentes n'ont pas de commune mesure avec la gloire à venir. Fais comme si. Ça veut pas dire, vous comprenez? Je crois que c'est ça que la Bible, ce texte-là, essaie de nous dire. Nous ne sommes pas dans un tunnel de souffrance sans fin. Il y a une espérance, il y a une autre vie. 80, 90, 100 ans ici, c'est rien à la lumière de l'éternité. Et c'est ce que ce texte-là est en train d'essayer de nous faire prendre confiance. Faites comme si ce que je vous ai dit, c'est vrai, réjouissez-vous. Et certains d'entre vous disent, mais il est fou, il danse, il saute. Peut-être que vous êtes là pour la première fois, c'est quoi cette église? Parce que c'est tellement vrai dans mon cœur que je le vis déjà en partie. J'imagine. Alors imaginez quand on se trouvait au ciel là-haut. Oh yes! Ou là, tu n'as plus peur du regard, des candidatons, de ce que là, c'est fini, tu n'as plus ça. Là, tu es vrai dans un vrai voyage de liberté, séjour de liberté, plus que séjour. C'est... Yes. Et je termine. avec ce dernier point. Je n'ai pas dit que je termine, j'ai dit avec ce dernier point. Première conclusion de quatre. Leçon de priorité. Je termine avec ce. On a remonté le verset 31, on arrive au verset 29. Ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme. Oh! Mariés ou non, que le Seigneur demeure l'occupation principale de nos pensées et nos motivations de vie. Mariés ou non. Comme s'ils n'en avaient pas. Comme s'ils n'avaient pas un avenir garanti à travers un foyer que tu es en train de fonder. Comme si. Et là, c'est tout le texte qu'on a vu jusqu'à présent. En fait, il va dire en détail, parce que ceux qui sont mariés vont s'occuper à plaire à leur conjoint, mari et épouse. À l'inverse, non. Et en fait, il est en train de dire, faites de moi votre préoccupation première, marié ou non, fiancé ou non, pour ou contre le mariage, divorcé ou non, remarié ou non, peu importe, âgé ou non, jeune ou âgé, peu importe, riche, pauvre, peu importe. Faisons du Seigneur notre principale préoccupation dans nos pensées, dans nos motivations de vie. Et en fait, si on résume, le verset, prochaine diapo, verset 29 à 31, nous parle de notre relation avec les gens, les événements et les choses. Les gens, relations de couple, les événements qui nous rendent soit tristes, soit joyeux, les jouissances de ce monde-là, et avec les choses, avec les biens de ce monde. On nous parle de ces trois aspects-là. Quelle est notre relation avec ceux qui nous entourent, avec les événements et avec les choses, ou comment est-ce que nous nous comportons? En fait, plus précisément, la vraie question, c'est, dans notre relation avec les gens, quelle est notre priorité? Alors, c'est sûr que ma priorité, c'est mon épouse, mes enfants, ma famille, ensuite le reste. Mais au-dessus de mon épouse, mes enfants, ma famille, il y a Dieu. Et je ne peux pas renverser la chose. Je ne peux pas plaire à ma famille, puis après chercher à plaire à Dieu, parce que là, je vais avoir un problème. Et c'est valable pour les relations autour de nous. Comme célibataire, priorisons notre relation avec Dieu. Et lorsque tu vas te retrouver avec quelqu'un, parce que plusieurs d'entre vous qui êtes célibataires allaient un jour rencontrer quelqu'un, eh bien ta dépendance ne sera plus dans celle d'un être humain. Ta dépendance va être en Dieu, puis tu vas juste être heureux de vivre ce que tu as à vivre sainement, et non dans une attitude, approche en psychologie qu'on appelle de codépendance. Priorité, c'est Seigneur. Avec les événements, ce que ça veut dire concrètement, c'est quelle est notre perception temporelle des événements que nous vivons qui amènent soit de la joie, soit de la tristesse. Quelle est notre perception? Priorité dans nos relations avec les gens, quelle est notre perception par rapport aux événements? Comment est-ce qu'on voit ça? On voit comme, ah, la joie, c'est ça, puis tout se limite à la joie, tout se limite à la tristesse. Non, perception temporelle, réalisons que ça fait que passer ces événements-là, qu'ils soient bons ou mauvais, excellents ou pires. Et avec les choses, nos biens, ça remet en question, c'est quelles sont nos prédispositions intérieures? Est-ce que mon identité sont dans les choses? Si ce n'est pas le cas, mes prédispositions intérieures, c'est ben, je suis content d'avoir ça, je suis reconnaissant, je suis béni, je suis gâté, je suis même pourri, mais mon identité est en Jésus. Je suis ce que je suis grâce à ce que Jésus fait de moi. Puis, merci Seigneur, tu as donné, tu peux enlever, tu peux redonner, tu peux renlever. Et si j'ai cette prédisposition-là, eh bien, j'ai beaucoup plus, je ne dis pas que c'est facile, mais beaucoup plus de facilité à traverser les tempêtes de la vie. Et je termine, pour de vrai, avec cette citation ici. Un fait avec lequel le célibataire ne sera pas surpris, c'est le fait d'être seul devant Dieu. Parce qu'ils ont été habitués à être seuls sur la terre. Et les célibataires nous inspirent et nous rappellent qu'un jour, que vous soyez marié ou non, seul devant Dieu. Alors, en vacances ou non, puissions-nous laisser le Saint-Esprit parler à travers sa parole dans nos cœurs et transformer nos vies et nous rendre plus sensibles les uns aux autres, plus en adéquation avec ce qu'il a fait et ce qu'il est pour nous. Parce qu'en bout de ligne, même déjà ici-bas, c'est juste qu'on n'en prend peut-être pas assez souvent conscience, mais la vérité, c'est qu'on est tous seuls devant Dieu. Tu ne peux pas vivre ta foi à travers celle de ton épouse et de ton mari. Tu peux venir à l'église parce que ton mari ou ton épouse vient à l'église, mais ultimement, ta foi, tu la vis toi. Sinon, ça ne vaut rien. Tu marches le régime d'un autre, puis si cet autre disparaît, est malade, ben tu t'effondres. La question que je pose, c'est est-ce que ton roc, tes bases, est-ce qu'elles sont en Jésus? Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer simplement avec le chant qu'on a peut-être mentionné, simplement se laisser inspirer, dire « Seigneur, oh yes, je veux reparamétrer ma vie, mes prédispositions intérieures, mes priorités, mes perceptions, je veux les reparamétrer pour être en phase avec toi, puis marcher avec toi. » Merci beaucoup. Juste terminer avec deux annonces seulement. La première, est-ce qu'il est là, Jordan? Yes! Jordan, est-ce qu'il y en a qui connaissent Jordan ici? Jordan, lève ta main. Lève-toi, yes. Ok, non, c'est pas son anniversaire. C'est son dernier dimanche ici au CEP pour une année. Il va revenir vers Noël, mais quand même, c'est une année complète. Il part au Canada, au Québec, pour un temps de formation, études, etc. Alors, on a entendu « faites comme si ». Faites comme s'il était déjà parti. Non, non, mais alors, non, si vous dites « alors non, comprenez ce que ça veut dire ». Faites comme s'il était déjà parti, ça veut dire « dites-lui tout ce que vous aimeriez lui dire lorsqu'il sera parti ». Prenez-le dans vos bras, gâtez-le, appelez-le durant les quelques jours qu'il est là, pour ceux qui le connaissent personnellement. Donc, Jordan, on veut dire, on va être avec toi en pensée durant toute cette année. On a hâte que tu viennes. Et fais comme si tu n'étais pas loin de nous. Garde-nous dans ton cœur, d'accord? Ne nous oublie pas. Donc, puis on croit que le Seigneur a des bonnes choses pour toi durant et à travers ce voyage. Yes, yes, yes. Deuxième annonce, elle est simple, il s'agit du week-end d'église. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, je pense qu'il y a une feuille en arrière. Vous pouvez vous informer, on peut vous envoyer le mail ou peut-être que vous l'avez certainement déjà reçu. Allez sur le Doodle, inscrivez-vous si vous avez l'intention d'y être. Les places sont limitées, donc c'est les seuls détails et informations que je vous donnerai. Sinon, vous pouvez aller voir Nancy, je pense qu'elle est en bas ou en vacances peut-être. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, je ne l'ai pas croisé. Elle est en vacances, mais en tout cas, il y a assez de personnes ici qui peuvent vous aiguiller, vous informer si vous désirez participer à ce week-end d'église, dans les belles choses qui nous attendent. On est en train de préparer ça avec l'équipe d'anciens, on se réjouit beaucoup. Alors, merci à tous pour votre patience, pour votre présence. C'est vraiment, vraiment agréable de vous voir. Et puis, surtout, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et merci à vous qui nous avez visités ce matin. Bon dimanche à tous.